Alors j'espère, oui, effectivement, que Dieu va pointer du doigt des choses importantes ce matin. Ce que je vous propose, c'est une chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est que je ne vais pas vous faire une exposition des Écritures, mais plutôt une synthèse, un rapport d'un congrès auquel j'ai assisté durant l'été, qui s'appelait le Younger Leaders Gathering, en anglais, la rencontre des jeunes leaders du mouvement de Lausanne, qui s'est déroulé à Jakarta. C'était un événement très important qui rassemblait de nombreux jeunes leaders entre 25 ans et 35 ans, investis pour la mission, investis pour faire grandir l'Église et l'évangélisation du monde. Et cet événement permettait à ces 1000 jeunes leaders de se rassembler pour recevoir des enseignements ensemble, réfléchir ensemble aussi, prier les uns pour les autres et faire un état des lieux. Essayer d'avoir une photographie de ce que Christ est en train de faire dans le monde. Donc j'espère que ce rapport va nous aider, nous, en tant qu'Église locale, à comprendre ce que Christ est en train de faire en ce moment dans son Église et dans le monde, et comment nous, en tant qu'Église locale, comment chacun de nous aussi, en tant que personne, peut prendre une pleine part à l'avancée de l'Évangile. Nous sommes à la rentrée. Nous avons passé un bon été, je l'espère, les uns et les autres. Certains sont partis, d'autres ont travaillé. Peut-être que les uns et les autres nous manquons de ressourcement, mais j'espère qu'une vision de ce que Christ est en train de faire, en même temps, est un challenge pour nous, mais en même temps, en regardant cela avec le filtre de sa souveraineté, le filtre que c'est lui-même qui nous envoie dans la mission et que c'est lui qui est à l'œuvre et que c'est lui l'ouvrier principal de son plan, cela puisse nous encourager, renouveler notre vision, renouveler notre engagement, que ce soit dans notre piété personnelle, mais aussi au travail, dans nos loisirs, dans notre investissement dans l'Église, etc. Que vraiment nous puissions faire de Christ une passion, que notre désir pour l'Évangile puisse être renouvelé. C'est ma prière pour ce matin. Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais au mouvement de Lausanne, qui porte le nom de la ville de Lausanne. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je vais vous présenter simplement un petit peu ce que fait Lausanne, parce que je pense que pas nombreux parmi nous savent exactement ce qu'est le mouvement de Lausanne, et pourtant c'est vraiment important de connaître ce mouvement et ce qu'il fait, puisque beaucoup de choses que nous faisons dans notre pratique de la mission découlent des apports du mouvement de Lausanne. C'est quelque chose donc de très important. Donc vous présentez cela. Ensuite, je vais vous passer une courte vidéo qui présente un petit peu la synthèse de ce qui s'est passé durant cette rencontre à Jakarta. Et puis, je vais vous proposer aussi les apports de ce que nous avons eu là-bas, une synthèse des apports, les défis pour l'Église, les défis pour l'évangélisation et aussi les défis de notre monde actuel. Et enfin, je conclurai avec une série de questions, quatre questions essentielles avec lesquelles je reviens de là-bas, que je m'adresse à moi personnellement et que je veux vous adresser, des questions d'application pour nous, pour pouvoir mieux vivre l'Évangile au quotidien. Je vais illustrer cette présentation aussi de quelques exemples de rencontres que j'ai faites pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il se passe dans le monde, qu'est-ce que font nos frères et sœurs dans le monde qui sont comme vous et moi. Durant cette rencontre, il n'y avait pas que des pasteurs ou des missionnaires à temps plein. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des responsables de ministères jeunesse, il y avait des responsables d'associations laïques qui étaient présents, mais toutes ces personnes avaient en commun la passion pour la mission et la passion pour Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, je souhaite vous présenter donc ce qu'est le mouvement de Lausanne. Billy Graham, le grand évangéliste, je pense que tout le monde ici a entendu parler de lui. Je me souviens dans mon manuel même au lycée d'histoire, quand on étudie les États-Unis, il y a une photo de Billy Graham en train de prêcher. C'est un personnage majeur du XXe siècle dans l'histoire de l'Église. C'était un grand prédicateur américain, un évangéliste, et il a pu annoncer dans sa vie l'Évangile à des millions de personnes dans le monde entier, où des grandes campagnes étaient organisées. Il y en a eu en France aussi. La France a été au bénéfice aussi du ministère de Billy Graham. Personnellement, je connais plusieurs personnes qui se sont converties durant ces campagnes d'évangélisation et qui ont pu à leur tour elles-mêmes devenir des ouvrières. Eh bien, Billy Graham, lors de son ministère d'évangélisation, fin des années 60, années 70, a constaté que de partout où il allait, l'Église, les églises locales, les unions nationales n'étaient pas au courant de ce qui se faisait dans le monde. Il manquait de communication, il manquait d'unité au sein de l'Église évangélique et d'une vision commune de l'évangélisation, du mandat missionnaire, une définition théologique et aussi une perspective sur le reste de la tâche à accomplir. Alors Billy Graham, avec John Stott, qui était lui un grand théologien anglais aussi du XXe siècle, vous en avez probablement entendu parler, ces deux hommes avec un collège d'autres missionnaires et théologiens ont convoqué le premier congrès à Lausanne pour rassembler donc les acteurs principaux de l'évangélisation dans le monde et leur permettre de réfléchir ensemble à l'évangélisation, mais aussi de donner à l'Église, et à l'Église avec un grand E, ce qu'est l'Église, le peuple de Dieu, ce qu'on appelle aussi l'Église universelle, tous nos frères et sœurs autour du monde, de s'assurer que l'Église a bien une définition biblique solide de ce qu'est l'évangélisation, de ce qu'est le mandat missionnaire légué par Christ à son Église. Donc, Billy Graham a lancé ce mouvement, et ce mouvement s'est rencontré au cours de l'histoire régulièrement pour faire un petit peu un point. Il y a eu notamment Mani, il y a eu aussi le Cap en 2010, où il y a eu une révision de la déclaration de foi du mouvement, et aussi donc cet événement-là à Jakarta en 2007, qui était lui centré sur la nouvelle génération de leaders. Il y en a eu d'autres, mais là je vous parle des événements principaux du mouvement de Lausanne. Donc je parle bien d'un mouvement, ce n'est pas une union d'églises, ce n'est pas une œuvre qui travaille avec les églises, c'est un mouvement qui se détermine bibliquement, théologiquement, et toutes les églises et toutes les œuvres du monde peuvent se rattacher à ce mouvement-là à partir du moment où elles partagent la même confession de foi. Donc autant dire que l'ensemble de l'Église évangélique dans le monde se rattache au mouvement de Lausanne. Alors, les objectifs de Lausanne, j'en ai déjà parlé rapidement. Le premier, c'est de rassembler donc l'Église autour d'une définition biblique partagée par toute l'Église du grand mandat ordonné par Jésus, qui est de celui de faire des disciples parmi toutes les nations jusqu'à son retour. Le deuxième objectif du mouvement de Lausanne est de fédérer l'Église tout entière pour annoncer l'Évangile dans sa totalité au monde entier. L'Église entière qui prononce un évangile entier, pas un évangile qui est tronqué, découpé, où on garde simplement les parties qui nous arrangent pour nous dans notre société et qui nous dérangeraient, non, un évangile qui est biblique et qui est partagé au monde entier, sans aucune discrimination, sans aucun préjugé, où nous croyons que chacun a besoin d'entendre ce message venant de Dieu. Ensuite, le dernier objectif de Lausanne, c'est de connecter les leaders, les acteurs clés de l'évangélisation dans le monde, et que ces personnes-là puissent être des ressources, des catalyseurs pour l'Église locale, permettre aux églises et aux œuvres de progresser avec des réflexions qui sont à la pointe de ce qu'il se passe actuellement dans le monde. Alors, simplement pour vous donner quelques apports simplement du mouvement de Lausanne pour nous dans le monde. Premièrement, la déclaration de Lausanne, qui a été fondée en 1974. Peut-être les uns et les autres ont eu l'occasion de la lire. C'est une confession de foi missionnaire, un engagement missionnaire qui a été fait. Si vous ne l'avez pas lu, ça se trouve sur Internet. Vous allez sur le site, vous tapez « Mouvement de Lausanne ». C'est très simple, c'est gratuit, c'est en ressources. Ça se lit, c'est une déclaration de foi, donc c'est quelques pages, ça se lit en un quart d'heure. C'est vraiment encourageant et ça nous permet de voir vraiment autour de quoi nous sommes rassemblés. Lausanne aussi a apporté en 1974 cette définition des peuples non atteints par l'Évangile. Donc on parle tous aujourd'hui de peuples non atteints, mais c'est Lausanne qui a conceptualisé ce qu'est un peuple non atteint. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un peuple non atteint ici? Oui. Un peuple non atteint par l'Évangile, c'est un peuple qui n'a pas d'accès à l'Évangile, qui n'a pas dans sa langue la Bible, qui n'a pas dans son pays ou dans sa région de chrétiens qui puissent annoncer l'Évangile. Ce sont des personnes qui n'ont aucun accès à l'Évangile. En France, il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces peuples non atteints. Par exemple, il y a des étudiants syriens qui viennent en France. mais venant en France, ils peuvent être atteints puisque nous, nous sommes là. Dans leur pays, ils ne peuvent pas avoir accès à l'Évangile. Voilà la différence entre des personnes qui peuvent être évangélisées et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Donc cette définition-là et en faire un engagement prioritaire pour l'Église, c'est Lausanne qui a apporté cette réflexion-là. Aussi, ce qu'on appelle la mission intégrale ou la mission holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se préoccuper de l'annonce de l'Évangile, dire voici ce qu'a dit Jésus, et puis ben, bonne chance, débrouillez-vous avec. Non, nous devons imiter Christ dans son annonce de l'Évangile, où Christ s'est préoccupé des personnes, pas simplement de leur destinée éternelle, non, il s'est préoccupé des personnes dans les situations dans lesquelles elles vivaient. Et donc nous croyons que l'Évangile transforme des vies, et nous, l'Évangile que nous devons proclamer est un Évangile qui transforme l'intégralité de notre vie, et donc qui doit transformer notre rapport au monde. Ensuite, le mouvement de Lausanne a défini ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est des repères géographiques, vous savez, entre les parallèles qu'il y a sur la Terre, le 10 qui est au-dessus de l'équateur et le 40 qui est en dessous de l'équateur. Pour simplement rappeler qu'il y a une fenêtre géographique dans le monde qui est principalement donc autour de l'équateur et plutôt par rapport à nous, hein, sur le côté est du monde, donc l'Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et tout le nord de l'Afrique notamment, qui sont des régions où sont concentrés les peuples non atteints par l'Évangile. Donc on constate que géographiquement, tous ces peuples-là vivent à peu près dans les mêmes endroits et donc que l'Église doit faire un effort, avoir une orientation dans ces régions-là du monde puisque c'est là qu'il y a le plus grand travail encore à faire. Je parle là en termes non pas d'importance des vies, puisque toutes les vies ont la même importance aux yeux de Dieu, mais en termes de personnes qui sont non atteintes par l'Évangile. Enfin, l'engagement du CAP, qui est une révision et qui apporte plus de solutions pratiques aux églises aux églises dans le monde. La vision de Lausanne, c'est d'apporter l'Évangile à chacun. L'Évangile doit être à la portée de chacune des personnes dans le monde. Nous croyons que c'est ce que Jésus désire, que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations et à toutes les personnes sur terre. Aussi, c'est l'accès à une Église évangélique dans tous les peuples, que tous les chrétiens puissent vivre cette vie d'Église locale. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement d'une annonce de l'Évangile et chacun vit comme il veut après derrière, non, c'est de vivre l'Église, de vivre cette réalité locale du peuple dans lequel nous sommes, qui lui est mondial et ne représente qu'un. Aussi, dans ces églises-là, des leaders à l'image de Christ, dans chacune de ces églises. Le mouvement de Lausanne a constaté que malheureusement, souvent, l'Église rend un mauvais témoignage à cause de leaders en son sein, qui porte un mauvais témoignage, qui cherche le pouvoir, qui cherche l'argent, qui cherche plein de choses autres que se ressembler à Christ et d'inviter les membres de l'Église à ressembler à Christ. Mais aussi faire avancer le royaume par le témoignage de l'Évangile dans toutes les sphères de la société. Je m'explique. Ce que désire le mouvement de Lausanne, c'est d'encourager les chrétiens à s'investir dans toutes les sphères de la société pour vivre comme des témoins de Christ et proclamer la seigneurie de Christ qui doit avoir un impact dans toutes les sphères de la société puisque l'Évangile transforme des vies tout entières. Le mouvement de Lausanne encourage les chrétiens à s'investir dans le domaine des arts, dans le domaine des médias, dans la politique, dans la finance, des domaines où il y a un manque cruel de témoignages. Ce n'est pas un appel à tous être missionnaires et partir simplement dans les peuples où il n'y a pas, où l'Évangile n'est pas proclamé, mais c'est à vivre là où nous sommes, à nous engager à vivre la mission, peu importe notre travail. J'ai pu rencontrer là-bas, par exemple, deux exemples que je vous cite qui illustrent bien cela. J'ai rencontré un jeune Américain qui a fait des études de business et qui a décidé, au lieu de monter son entreprise aux États-Unis, d'aller la monter en Inde, dans le nord de l'Inde particulièrement. Il est allé là-bas dans le but non pas simplement de se faire de l'argent, de s'enrichir et d'enrichir des personnes et de permettre à des biens de consommation de circuler. Il est allé dans le nord de l'Inde pour pouvoir offrir à des Indiens un salaire qui soit décent, leur offrir un témoignage de l'évangile qui soit pertinent et participer au développement d'une région qui est très pauvre. Et donc, vous voyez, sa vision, c'était de s'installer là-bas, de pouvoir donner un travail à des personnes en les payant bien. Et je peux vous dire que par rapport, vous imaginez, aux autres entreprises dans la région, le témoignage que c'est, où toutes les personnes sont presque réduites à l'état d'esclavage, les gens savent qu'en travaillant chez lui, ils sont bien payés. Lui-même vit avec le même salaire que ses salariés. C'est une démarche intentionnelle pour leur montrer, leur démontrer au quotidien ce qu'est l'évangile dans une vie. Bien sûr, ils savent tous qu'il est chrétien, et grâce à cette entreprise-là, il s'est retrouvé avec quelques personnes qui se sont converties, et ils ont implanté une église avec des collègues de travail à lui, indiens, qui se sont convertis. Vous voyez, apporter l'évangile dans toutes les sphères de la société. J'ai rencontré aussi Michael. Michael était un réfugié soudanais. Michael a dû être déporté lorsque le village de sa famille s'est fait attaquer. Lui, il avait 3 ans. Il a pu en réchapper puisqu'il était caché dans des herbes hautes. Et il a été retrouvé, et on l'a amené dans un camp de réfugiés. Dans ce camp de réfugiés, Michael a contracté une tuberculose spinale. Ne me demandez pas ce que c'est, mais il a dû subir des opérations et il a terminé en fauteuil roulant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa culture, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est handicapé, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant maudit, rejeté par les dieux, par les esprits, et donc rejeté par tous et toutes, même dans un camp de réfugiés. Dans ce camp de réfugiés, il y avait plusieurs chrétiens qui travaillaient. Et il a pu être opéré par une doctoresse, on dit doctoresse ? Docteur ? Oui, une chirurgienne, qui l'a opéré. Qui l'a opéré et qui a pris soin de lui. Et constatant que cet enfant n'avait pas accès à la scolarité puisqu'il était considéré comme rejeté, en dehors de ses heures de travail, elle a commencé à lui donner des cours particuliers. Jusqu'au collège, et elle a réussi à lui décrocher une bourse pour pouvoir aller faire son lycée en Angleterre. En Angleterre, il est sorti premier de sa classe en terminale et il a donc décroché une bourse pour rejoindre une école prestigieuse. Il est sorti major de son école prestigieuse en Angleterre, une école de loi, une école de loi, et il est devenu avocat. Et il s'était bien sûr converti au contact de cette femme, et son ministère a été de monter une association internationale qui défend les droits des personnes blessées par les génocides et les déportations en Afrique. Et donc maintenant, on le voit, il est en costume, c'est un homme d'affaires, il a ses bureaux dans des grands buildings à Londres, il voyage dans le monde entier et il permet à des centaines et des centaines d'enfants de recevoir des soins, d'avoir leurs droits qui sont défendus. Il fait un lobbying auprès des Nations Unies, etc., pour défendre et permettre aux plus pauvres et à ceux qui sont rejetés par la société d'avoir accès à des soins. Voilà un autre exemple de personne que j'ai rencontré là-bas. La philosophie du ministère de Lausanne se résume en 3 mots, humilité, simplicité et intégrité. Et je vous cite ce que annonce Michael Ho comme déclaration d'intention, c'est que nous avons un évangile à annoncer, nous avons un évangile pour lequel vivre, et nous avons aussi un évangile pour lequel nous devons être prêts à mourir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes, là-bas, je vous en parlerai plus tard, qui vivent réellement au quotidien des dangers de mort, qui sont en danger de mort pour vivre l'évangile, simplement. Alors maintenant, je vais vous présenter ce qu'il s'est dit, un petit peu le rapport que nous avons eu durant cet événement en particulier là-bas. Et pour introduire cela, je vous propose une vidéo. Alors le son est-il prêt ? C'est un court clip qui vous fait la synthèse.
Nice to welcome you in my country.
By the grace of God and through your prayers, every member of the Nigerian delegation is here.
2016年，印度尼西亚第三届青年洛桑大会，我们因着主的信实，在主的时候。
The best part of YLG was telling the story.
People relate to stories, not information.
The story is so vital as we understand who we are as people.
The way God gathers us, talks to us, corrects and encourages, it all comes through the story, and we're in the story.
We're here because God is about to orchestrate divine connections.
Connecting with others allows us to feel that we are not alone.
Thank you, YLG, for providing me with a connect group.And an awesome mentor. When I came, I was tired, but just connecting with those people re-energized me to go and fulfill my mission.
We need the help of all you sisters and brothers from other parts of the world who have kept alive a passion and the courage for the gospel.Which many Western Christians have lost.
We are able to see better than ever where the church is, where the church needs to go, and what the church needs to do.
You're going to carry his beam.
What?
You're going to carry this guy's cross beam. He's too weak.
We are the people of the cross.
I'm so excited and privileged to see how God has brought together his people to fulfill the Great Commission.
Those.Who are spiritually impoverished long to be in the kingdom of God. The only thing they need is an invitation.
The biggest learning at YLG for me has been for me to do mission with God and not for God.
And the choice that I have all the time is whether I am going to be a name or have a voice.
The Spirit calls us to partner with Him.In this ministry of reconciliation.
I don't want to hang on the past. I want to live in the present because the wounded Savior has stretched his healing hand on my inner wounds that no one could see.
My time at YLG has really taught me the importance of abiding in Jesus and how, although he calls us to many things, he calls us to mission and to loving one another, we first need to abide in him and then go out into the world from that.
Keep Jesus central.
Christianity without Christ, we never change Africa.
If Jesus is not the hero of your story, you actually haven't told your story because it's Jesus' story.
There are so many things in this world that tend to tear us apart and bring us division. And yet here we find the one thing that transcends all of those realities, the death and resurrection of the Son of God.
Our God is worthy.
We need a holistic approach to evangelism.That is biblically faithful, culturally relevant, spiritually empowered, and relationally effective.
For me, it's about love, you know? It's mean take global stories and love from these stories to my local church and my local community of students.
Seeing that some of these countries that in my personal life, I've never thought that there are Christians there, have given me a broader vision to see how well we can come alongside our brothers and sisters and evangelize to the world.
YLG has impacted me the most through the invitation of the Holy Spirit.To the ministry of reconciliation.
He takes all of time, brings it into the now, changes the heart to prepare you for eternity.
There are big issues of our time, but our God is greater. And yes, we are not qualified, but that's totally fine because it's not about you and it's not about me.
What has most impacted me about being here is seeing the hearts of the people willing to take risks for the gospel.
Every time we put a Chinese Christian in prison, we've just created another hero.
If God called you to suffer for his name, he will give you a strength you need.
The biggest impact YLG had on me during this week, it's given me idea of using gospel music to reach out to many people, especially young in my country, Rwanda.
Thank you.
Дякуємо, LG, за те, що ви вкладаєте це велике бачення в серця молоді.
شكرا LG على الشهادات اللي سمعناها في خلال المحاضرات الرئيسية.
Gracias YLG por renovarnos el amor por la palabra de Dios.
Дякую YLG, що ви дали таку чудову можливість відчути культуру Царства Божого.
Thank you YLG for the opportunity to be among the global church and to learn from them.
Shukriya YLG 2016 mere ko yahan par select karne ke liye taki main Parmeshwar ki seva Uttar Bharat mein kar sakun.
Muito obrigado YLG por trazer a nós o reino de Deus em nossos corações mais uma vez.
Thank you YLG for the opportunity to participate in this amazing event. Of bringing together so many cultures from around the world.
Спасибо YLG за любов.
Shukriya YLG. Pyar, love.
Voilà, donc vous l'avez compris, c'était en anglais. Alors là, je pense qu'on est 95% ici à ne pas comprendre l'anglais. Pourquoi je n'ai pas pu vous communiquer des photos? Vous avez vu qu'il y a de nombreux visages qui sont floutés. Et pour cause, puisque certains des participants, si jamais elles sont identifiées, risquent leur vie quand elles retournent chez eux. Donc nous avions des conditions extrêmement strictes de vidéos, de photos à faire. Mais simplement, cette vidéo, pour vous montrer un petit peu ce qu'il se passait là-bas, donc nous avions des interventions avec des exposés donnés par différents spécialistes de différentes parties du monde à propos des défis de l'Évangile, mais aussi beaucoup de temps ensemble, les uns avec les autres, pour pouvoir échanger à propos de nos histoires et de nos ministères et de ce que Dieu est en train de faire dans le monde, et des rencontres aussi qui étaient autour de thématiques où nous pouvions ensemble réfléchir sur différentes thématiques et encore prier les uns pour les autres. Nous avons eu une soirée de prière dont vous avez vu quelques images qui étaient extraordinaires. Imaginez 1000 personnes qui représentent l'Église du monde entier, qui s'adressent ensemble à Dieu, qui sont là pour l'adorer, et nous avons prié pour chacune de ces régions du monde, pour tous les leaders qui étaient là, pour que Dieu vraiment protège leur ministère, permette à l'Église dans cette région du monde de pouvoir grandir et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement encourageant. Nous avions aussi l'occasion, durant cette semaine, de pouvoir rencontrer des personnes qui étaient nommées des mentors, qui étaient présentes, des personnes bien plus âgées que nous, avec qui nous pouvions discuter à propos de nos ministères, recevoir des conseils et tout ça, des personnes vraiment... j'ai moi-même bénéficié de plusieurs entretiens qui m'ont extrêmement encouragé à participer. Alors, maintenant, je voudrais venir à vous proposer un petit peu l'état des lieux de l'évangélisation du monde. Nous avons eu, vous savez qu'il y a une branche de ce qu'on appelle la missiologie, c'est toutes les théologiens qui travaillent sur la mission, qui travaillent pour essayer de maintenir l'Église à jour à propos de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Et nous avons eu l'occasion d'avoir les dernières données de ces personnes donc qui nous ont fait ce rapport-là. Simplement, pour commencer, pour nous encourager, il n'y a jamais eu autant de présence dans l'Église dans le monde entier. L'Église n'a jamais été autant présente à divers endroits dans le monde. Aujourd'hui, quasiment aucun pays n'a pas au moins une présence d'un petit groupe de chrétiens en son sein. Donc c'est une merveilleuse nouvelle. Durant les 150 dernières années, l'évangélisation a plus avancé que pendant quasiment les 2000 ans qui l'ont précédé. Donc Dieu vraiment est en train de faire quelque chose de magnifique, le mouvement s'accélère, et c'est quelque chose pour laquelle nous pouvons vraiment nous réjouir. Une autre donnée qui est intéressante et pour laquelle je pense que nous ne nous rendons pas tout à fait compte. 29% des chrétiens seulement en 1960 étaient dans les pays du Sud, c'est-à-dire dans les pays du Sud, l'hémisphère Sud principalement, ou plutôt les pays sous-développés dans l'hémisphère Sud. Donc, vous voyez, 29% simplement des chrétiens représentant l'Église. Aujourd'hui, enfin, plutôt une projection d'ici 2020, on estime que 80% des chrétiens qui représentent l'Église vivent dans les pays du Sud. La majorité des chrétiens dans le monde sont dans les pays du Sud. Donc, pour vous dire comment l'évangélisation, d'une part, a progressé dans ces pays-là, mais comme aussi l'Évangile a reculé dans toute une partie du Nord. Et donc on voit une évolution simplement du centre de gravité, où pendant un temps, au début, il y a 2000 ans, c'était en Palestine, et puis ça s'est développé au sein après de l'Europe, et puis c'est parti aux États-Unis, et maintenant le centre de gravité est vraiment dans les pays du Sud. Aujourd'hui, des missionnaires partent de tous les pays vers tous les pays. Il se trouve que jusque dans les années 60, il y avait un mouvement des missionnaires plutôt des pays du Nord et de l'Occident vers les pays du Sud. Mais aujourd'hui, les premiers pays qui envoient des missionnaires statistiquement sont les Indiens et les Chinois. Les Chinois, alors que c'est un pays où l'évangile n'est pas autorisé dans la majeure partie, où l'Église est souterraine, arrivent à envoyer des Chinois en mission dans le monde entier. J'ai rencontré une Chinoise qui partait pour être missionnaire au Sénégal, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, on rencontre des missionnaires dans les églises qui vont de partout, là où Dieu donc, les appelle. Donc c'est quelque chose qui est aussi un très bon signe par rapport à l'Église, c'est qu'il n'y a pas une notion de dépendance où il y a une partie du monde qui dit « nous, on a besoin des Blancs » ou « on a besoin des Occidentaux », etc. Non, l'Église vraiment désire, toutes les églises dans le monde désirent participer au mouvement missionnaire. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, donc des choses encourageantes. Mais il faut relativiser. La croissance de la population mondiale évolue bien plus rapidement que la croissance de l'Église. Imaginez, la courbe de la population mondiale, elle évolue comme ça, et celle de l'Église évolue comme ça. Et donc chaque année, l'écart se creuse, et donc paradoxalement, il y a toujours sur Terre de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile. Donc la tâche est encore grande pour que chacun puisse entendre l'Évangile et puisse avoir un accès à une église autour de lui. 81% des non-chrétiens dans le monde n'ont pas de connaissances chrétiennes, n'ont pas un ami, une personne dans leur entourage qui soit chrétien. 81% des non-chrétiens du monde n'ont pas un chrétien pas loin de chez eux qui puisse leur témoigner de l'Évangile. Donc la tâche est encore très grande, très très grande. Et la personne qui présentait tous ces éléments-là, elle en a donné beaucoup d'autres, mais je ne vais pas vous noyer de statistiques, ce n'est pas le but. Mais alors qu'elle nous présentait tout ça, lorsqu'elle a cité ça, elle s'est arrêtée et elle a fondu en larmes. Et pendant 5 minutes, elle n'a pas pu continuer, tellement elle était saisie de voir toutes ces personnes qui n'ont pas encore accès à l'Évangile. Et moi-même, alors qu'on était dans des données qui sont un petit peu abstraites, on voyait cette personne qui était là et qui pleurait sur toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile. Et moi-même, j'ai été repris, parce que je me suis dit, vraiment, à quel point moi je suis sensible à toutes ces personnes-là qui vivent, qui naissent, qui vivent et qui meurent sans avoir entendu une seule fois parler de Jésus-Christ. Mais cette personne-là, après ce temps de silence, nous a dit ceci: la prière change l'Église et change le monde. Et des églises qui ont lancé des mouvements de prière, et j'ai rencontré un homme qui était responsable de lancer des mouvements de prière dans tout son pays en Chine, des églises qui ont commencé par la prière se sont vues totalement transformées dans leur rapport à la mission et ont commencé à envoyer beaucoup plus de missionnaires. Et pour moi, ça a été un encouragement extraordinaire à cultiver une vie de prière, à ce que dans nos groupes de quartier, dans nos différentes réunions, dans nos vies personnelles aussi, on prie pour toutes ces nations qui n'ont pas accès à l'Évangile, qu'on prie aussi pour tous nos amis, nos voisins, nos fréquentations à qui nous n'avons jamais annoncé l'Évangile et avec qui nous sommes peut-être la seule personne qu'ils ont comme relation qui peut leur annoncer l'Évangile. Nous avons une grande responsabilité. Le coût est difficile pour l'Église, le coût est grand, mais nous devons nous rappeler les promesses qui encadrent le mandat missionnaire de Christ, c'est qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il a toute autorité sur la terre comme au ciel. Enfin, ce que rappelait Michael, que vous avez vu en photo, et la personne avec qui j'avais discuté, Michael rappelait ça avec une simplicité extraordinaire. Il a dit: oui, mais face à tout ça, ce dont toutes ces personnes ont besoin, c'est juste d'une invitation à connaître Jésus-Christ. C'est tout ce dont elles ont besoin pour avoir leur éternité transformée, leur vie transformée. La puissance de l'évangile est là. C'est lui qui opère la transformation. Nous, nous n'avons simplement qu'à inviter les personnes à répondre cet évangile et bien sûr leur faire connaître. Voici les défis aussi de notre temps. Et j'ai relevé en particulier ceux qui sont intéressants pour nous, pour l'Europe et pour la France. L'immigration est le fait le plus important depuis le XXIe siècle. Les mouvements migratoires sont sans précédent, les mouvements migratoires que nous vivons. Et je crois que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, toutes les questions qui me venaient des chrétiens, j'ai rencontré des Iraniens qui sont venus me voir, qui cherchaient un Français, et qui sont venus me voir pour dire « Mais comment ça se passe en France ? On apprend des choses terribles. Est-ce que vous êtes persécutés comme nous ?» Et des chrétiens, des églises en Iran, prie pour les chrétiens en France. Prie pour qu'on puisse continuer d'annoncer l'évangile malgré la persécution. Et je leur disais, mais attendez, je vous rassure, on ne vit pas du tout la même chose que vous. Nous avons des difficultés, des défis, mais on n'en est pas encore là. Mais pour eux, ils s'en fichaient, parce qu'ils entendaient que nous étions menacés. Et je me suis dit, est-ce qu'eux ne seraient pas plus conscients que nous des défis face auxquels nous faisons face en Europe ? Je crois que Dieu vraiment ébranle l'Europe, une société qui est dans le confort, qui se retrouve face à des défis qu'elle avait totalement oubliés. Et quelle est la part de l'Église dans cette Europe-là? Comment pouvons-nous avoir un impact parmi ces peuples, parmi ces personnes qui arrivent par millions en Europe et qui viennent précisément de pays non atteints par l'Évangile, parmi lesquels nous ne pouvions pas aller? Dieu est derrière tous les mouvements, derrière toutes les villes, est souverain sous l'histoire. Et nous avons un mouvement de ces peuples qui ne pouvaient pas être atteints par l'Évangile. Dieu les amène à nos portes. Et c'est ce qui faisait dire à l'ensemble des missiologues que les églises doivent avoir une réflexion, vraiment pousser les unions d'églises par rapport au travail que nous pouvons faire parmi tous ces peuples qui sont non atteints et qui viennent vivre parmi nous et qui sont aux portes de nos pays. L'accélération exponentielle des sciences et des nouvelles technologies. La courbe de progression d'innovation technologique est presque en ligne droite, quoi, tellement ça augmente par rapport à ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles. Des nouvelles technologies permettent de créer elles-mêmes d'autres nouvelles technologies qui permettent de créer d'autres nouvelles technologies, etc., etc. Ce qui amène énormément de défis, et celui qui a été abordé notamment par les apologètes pour les occidentaux, c'est ce qu'on appelle le fast life, c'est la vie rapide. Où nous vivons dans une culture qui idolâtre le travail, la productivité, l'efficacité, et dans laquelle les relations finalement sont derrière l'importance de la productivité, de l'argent, des carrières, etc. Et où toutes les vies sont millimétrées, sont chronométrées, où tout va vite. Il y a un flot continu d'informations. Les gens n'ont jamais été aussi informés, mais n'ont jamais aussi été si ignorantes de leur monde. C'est-à-dire que plus nous avons d'informations, moins nous comprenons ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qu'on constate en Europe, les gens ne comprennent plus le sens des choses, ne savent pas comment va évoluer leur société, leur civilisation, etc. et sont totalement perdus et pour autant ne changent pas forcément de rythme de vie puisque nous sommes pris dans un mouvement qui est d'une accélération constante de la vie. Mais aussi, ces nouvelles technologies apportent à l'Église des opportunités extraordinaires. J'ai rencontré quelqu'un qui était coréen du Nord, qui a pu fuir, puisqu'il était chassé en Corée du Nord. Il a pu fuir en Corée du Sud, et il est allé s'installer en Chine. En Chine, à la frontière de la Corée du Nord. Et il profite des antennes qu'il y a là-bas, téléphoniques, pour pouvoir communiquer avec ses anciens amis qui sont en Corée du Nord, qui peuvent capter les réseaux, et grâce aux applications qu'il y a aujourd'hui comme WhatsApp et tout ça, eh bien, il peut continuer d'évangéliser son pays. Il envoie des vidéos, il envoie des ressources. Et il y a des chrétiens là-bas en Corée du Nord qui peuvent bénéficier d'avoir accès à des ressources. Et là, le gouvernement ne peut rien faire contre ça. Donc on voit aussi que l'Église elle doit être à la pointe de ce qui se fait au niveau des technologies, puisque ça nous offre des opportunités aussi missionnaires. Aussi, la montée du terrorisme qui, en Occident, ébranle énormément de convictions et rebat les cartes. Et l'Europe et l'Amérique du Nord, face au terrorisme, est totalement désarmée. Et je pense que nous, on constate, quand on lit les médias et tout ça, où il y a plein de propositions, mais finalement, personne ne sait comment faire face à ça. Et l'encouragement que nous avions là-bas, c'était, nous, en tant que chrétiens, d'incarner, comme Christ l'a incarné lui-même, l'amour, d'incarner aussi un ministère de réconciliation autour de nous, dans une culture qui se communautarise de plus en plus, où chaque origine, chaque couleur de peau, chaque milieu social a tendance à se replier sur lui-même. Et l'Église est un acteur qui a une pertinence extraordinaire pour montrer qu'autour de l'Évangile, autour de Christ, nous pouvons nous rassembler, nous pouvons vivre ensemble et nous pouvons porter à notre société des valeurs qui sont radicalement différentes. Enfin, il rappelait que la théorie de la sécularisation du monde, vous savez, un monde qui est de plus en plus athée, qui est de plus en plus matérialiste, n'est valable simplement qu'en Europe, et encore dans l'ouest de l'Europe, et en Amérique du Nord, et le Japon. Encore que c'est assez différent là-bas. Mais que nous sommes dans un monde qui baigne dans le pluralisme religieux. En France, il n'y a pas beaucoup on ne sent pas beaucoup cette spiritualité qui est présente. Mais de partout dans le monde, cette spiritualité-là est bien présente. Et nous devrions faire attention de croire que toutes les personnes qui vivent autour de nous sont des athées, qu'elles n'ont rien à faire par rapport aux questions de spiritualité. En Europe, une personne sur deux regarde, par exemple, l'horoscope. C'est des choses toutes bêtes, mais des personnes qui se disent athées regardent quand même l'horoscope, alors par curiosité, etc. Mais quand on arrive, quand on pousse les réflexions, finalement, on trouve peu d'athées, mais en revanche, beaucoup de sceptiques. Enfin, c'est ça dont je parlais, la globalisation et le pluralisme religieux, c'est-à-dire que les gens ont accès à de plus en plus de religions autour d'eux, rend l'évangélisation de plus en plus complexe et offre à l'Église aussi, et ça c'est le côté positif, une diversité de ministères, puisqu'il y a une diversité de dons, une diversité dans l'Église d'origine, de cultures différentes, et donc dans l'Église, nous pouvons bénéficier de ressources extraordinaires. Si vous êtes en lien avec avec des amis qui viennent par exemple d'Afrique du Nord, dans votre Église, si vous avez un Africain du Nord, vous pouvez échanger avec lui et lui demander de l'aide. Si vous avez des personnes d'Amérique du Sud, vous avez peut-être des personnes d'Amérique du Sud dans votre Église aussi qui peuvent vous aider, etc. Donc l'interculturalité au sein de l'Église est une force pour l'Église. La globalisation se vit aussi dans l'Église. Les églises ethniques sont de moins en moins courantes dans les pays où il y a ces mouvements de population. Petit à petit, les populations s'entremêlent grâce à l'Évangile. Et c'est merveilleux, c'est un beau témoignage. Enfin, les défis de l'Église. Nous devons apprendre du passé et aussi nous demander ce que Christ est en train de faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que Christ est en train de faire aujourd'hui en regardant ce qui se passe autour de nous, notamment l'évolution de notre société. Nous devons voir et être sensibles au Saint-Esprit, à écouter vers quoi Dieu veut nous conduire. Et effectivement, quand on voit des peuples non atteints qui se retrouvent dans nos villes, dans nos pays, nous devons y voir aussi un appel de Dieu à aller pouvoir annoncer l'Évangile à ces personnes-là. L'implantation d'églises en France, pour qu'il y ait des églises qui puissent accueillir toutes les populations sans discrimination de partout sur le territoire, est quelque chose d'extrêmement important pour nous. D'aller auprès de ces peuples non atteints, où il y a des personnes qui jamais de leur vie n'entendront parler de Jésus, c'est quelqu'un qui ne savent même pas qu'il existe, ça doit aussi être une de nos priorités en tant qu'Église, etc., etc. La sécularisation de l'Église en Occident. Ravi Zacharias et Os Guinness, qui sont deux apologètes, des personnes qui défendent la foi chrétienne et qui ont l'habitude d'aider l'Église à rendre compréhensible l'Évangile et à le défendre dans la société, et notamment en Europe d'Occident, on dit cette chose de façon claire, et je crois qu'il faut qu'on prête attention, nous aussi, c'est que les églises en Occident sont bien plus sécularisées qu'elles ne l'imaginent. En Occident, nous revendiquons par rapport à l'Église dans le monde entier d'avoir la bonne théologie, d'avoir la bonne connaissance. Nous, nous avons la connaissance, mais finalement, nous ne vivons pas selon cette connaissance comme nous devrions le vivre. Et j'ai été humilié au contact notamment de frères et sœurs du Rwanda avec qui j'ai pu discuter. Et quand j'ai vu leur sagesse, leur amour pour Dieu, leur façon de vivre l'évangile au quotidien, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un frère comme toi, une sœur comme toi auprès de moi pour pouvoir m'encourager et me remettre en question, parce qu'on se rend compte que notre façon de vivre, finalement, les vérités que nous avons et que nous défendons n'impactent pas nos vies comme elles le devraient. Et je parle là d'une photo globale de ce qui se passe en Europe. Nous avons séparé l'intellect de la foi, d'une vie par la foi. L'évangélisation de nombreux peuples non atteints reste une priorité pour l'Église. Je ne reviens pas là-dessus. Et croire que l'Évangile est bien la plus belle chose, la plus grande des nouvelles, le plus important des messages et le plus puissant dans notre monde qui est tellement brisé et qui vit autour de fausses vérités, d'idolâtrie, qui le détruisent à petit feu. L'Église occidentale a tendance à croire que la proclamation publique de l'Évangile perd de plus en plus sa valeur. À croire que l'Évangile n'est qu'une vérité qui rentre dans le domaine du privé et qu'il faut d'abord être dans le domaine du privé pour l'annoncer. Et la question qui nous a été posée, c'est: est-ce biblique? Est-ce simplement une observation de notre temps, mais est-ce biblique? Et comment vivre un évangile publiquement au sein de notre vie dans une société qui se laïcise, mais dans le mauvais sens, au fil du temps? Ça, c'est un défi pour nous, à vivre une foi, un témoignage de notre foi qui demeure public. La première tâche et principale de l'Église est le discipulat. Ils se sont rendus compte qu'on avait dissocié trop dissocié l'évangélisation de la formation de disciples, et qu'il y avait dans les églises énormément de personnes qui avaient répondu à l'évangile et à qui on disait simplement, eh bien, sois fidèle aux réunions, participe à la vie d'église, sois à l'heure, et c'est tout. Et là encore, il y a un défi pour nous, en Occident, c'est de recouvrir une vision de formation de disciples, mais nous en parlerons de cela notamment lors du week-end d'église. Mais là, j'ai pu rencontrer un frère gabonais qui est responsable des GBU, vous connaissez l'évangélisation parmi les étudiants, qui m'a montré comment est-ce qu'il s'y prenait pour faire du discipulat. Et j'ai simplement, je suis tombé de ma chaise, quoi. Je dis, frère, t'es à des années de lumière de ce que je comprends et de ce que nous faisons autour de nous en France. T'es à des années de lumière. Et je me suis dit, punaise, on a besoin de ça aussi, de se remettre en question et de recouvrir vraiment une pratique de la vie chrétienne et de la formation de disciples qui soit biblique. Enfin, je termine avec cela, quatre questions, et puis je vous donnerai deux illustrations encore d'histoires de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait penser à ça. L'Église en France est-elle un musée? Je peux vous dire que j'ai été frustré là-bas de voir ce que font les autres églises dans le monde et le dynamisme, la foi qu'il peut y avoir au sein de ces églises-là. De voir la sagesse parmi les différents leaders qu'il y avait dans ces pays-là. Et nous, les Français, nous nous retrouvions le soir à l'hôtel et on partageait les rencontres qu'on avait faites et on se disait, waouh, Seigneur, tu démontres ta sagesse au sein de ton Église. Et on voyait des frères et sœurs mais qui ont des ministères extraordinaires et une sagesse, une passion pour Dieu, une simplicité dans leur foi et une radicalité dans leur façon de vivre leur foi qui nous a vraiment ébranlés et remis en question. Et moi, je disais, mais Seigneur, tu as utilisé dans le temps, notamment au moment de la réforme, ton Église en Europe pour impacter le monde. Fais-le encore. Pourquoi est-ce que nous serions sur la touche alors que nous avons tout, nous avons des connaissances, nous avons des ressources financières par rapport aux autres pays qui sont extraordinaires. Nous avons des moyens, nous avons la paix autour de nous, nous pouvons encore faire beaucoup de choses. Et l'Europe se comporte comme un musée. On est toujours en train de regarder ce qu'il y a derrière. Toutes nos références dans l'Église sont des personnes qui sont mortes. On fait référence tout le temps au passé et l'Europe est peu portée vers l'avenir. Nous ne devons pas nous considérer comme un musée, mais chercher à avoir notre place comme acteur mondial dans l'évangélisation. Et nous, en France en particulier, notre union d'Église, qui est la plus grosse dans notre courant théologique, doit avoir un impact. Nous, en tant qu'Église locale, qui est une des plus grosses de cette union-là, et une des peut-être en meilleure santé, doit avoir un impact majeur dans la mission. Nous devons être des étendards pour notre Europe, qui a tendance à sommeiller et à rester sur ses acquis, à recouvrir une vision missionnaire qui soit digne de l'Évangile. Deuxième question que je me pose et que je vous pose, est-ce que l'on vit par la foi ? Vraiment. Ce que ose Guinness rappeler, c'est que les chrétiens occidentaux ont mis la sagesse du monde, la sagesse pragmatique, au-dessus de la vie par la foi. Et il rappelait que des choix qui sont sans aucune prise de risque sont des choix sans foi. Dans notre vie d'église, dans notre façon de conduire notre vie au quotidien, il y a nécessairement une prise de risque si nous voulons vivre fidèlement à Christ. Si une église veut suivre Christ, il doit y avoir une prise de risque qui est là. Et que la foi n'est pas antinomique avec la sagesse, mais que la vraie sagesse est celle qui se confie en Dieu. Pas celle qui se confie en son argent, en ses capacités, mais celle qui croit que c'est bien Christ lui-même qui demeure le chef de l'Église et que le Saint-Esprit continue à conduire l'Église au jour le jour. Est-ce que l'Église locale est connectée à la mission globale ? La myopie locale, la myopie des Églises, souvent est quelque chose qui est terrible. J'ai rencontré un leader haïtien, un gars qui fait un travail extraordinaire dans son église. Il a implanté l'église il y a 2 ans. Ils en sont à 200 membres aujourd'hui. Et ils ont des projets d'implantation dans divers endroits de Haïti. Et vous savez qu'Haïti est un des pays les plus pauvres. Ce gars fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il me dit, mais il n'y a aucune ressource qui existe en français. Il n'y a rien qui existe en français pour faire des études bibliques, pour faire de la formation de disciples et tout ça. Il n'y a rien en français. J'ai dit, mes frères, mais bien sûr que si, il y a plein de choses. Je dis, nous, on a des ressources comme pas possible. Il tombait des nues. Et c'est un gars qui a fait des études, un gars qui est brillant et tout ça, mais il tombait des nues parce qu'il était simplement dans sa vision locale et dans ce qu'il avait accès. Donc je lui ai dit, écoute, donne-moi ton adresse email, je vais t'envoyer des liens à Internet et tu vas voir, tu vas crouler sous les ressources. Nous, on en a à revendre, on ne sait même pas quoi en faire. Et nous, dans quel domaine sommes-nous myopes aussi ? C'est une question que nous devons nous poser en tant qu'Église et demeurer connectés à la mission globale. Et là où je nous félicite, où nous avons un bon point, c'est la dynamique missionnaire que nous voulons avoir et que nous entamons notamment avec toute la réflexion que nous avons au sein du Conseil d'Anciens à propos de la politique missionnaire de l'Église, où nous voulons vraiment être plus intentionnels, vraiment à l'écoute de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Et nous désirons que notre Église ne voit pas la mission que simplement comme une annexe de la vie de l'Église, mais connecter l'Église à la mission et notamment l'envoi d'un groupe de notre Église en courte mission, les initiatives personnelles des uns et des autres qui partent en l'été en courte mission à droite, à gauche, sont des choses très positives, y compris ceux qui sont aussi moniteurs au sein des différents camps qu'il y a et qui évangélisent des jeunes qui ne sont pas chrétiens, qui viennent de familles non chrétiennes et qui ont un accès à l'Évangile. C'est des bonnes choses, c'est des choses qui nous encouragent. Et nous devons progresser et nous fédérer et développer une vision, une intention qui soit claire par rapport à la mission globale. Et enfin, est-ce que je crois que Dieu peut utiliser ma vie ? Si vous pensez que vous êtes trop insignifiant, disqualifié pour servir Christ dans le monde, si vous pensez que vous êtes sur la touche pour quelconque raison et que vous ne pouvez pas, je vous invite à reconsidérer ce que nous disent les Écritures, où nous avons une galerie du début à la fin d'un Dieu tout-puissant qui utilise constamment des personnes qui sont insignifiantes, qui fuiraient même face à l'appel de Dieu. Mais Dieu utilise ces personnes et impacte le monde au travers de la vie de chacun de ses disciples. Chacun doit prendre sa part, chaque église locale et chaque disciple. Et un frère là-bas m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? C'était un des responsables avec qui j'avais. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Alors, j'ai fait une démonstration, voilà, moi, ce que je veux faire, tac, 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 et voilà, tout un truc bien à la française, quoi. Et je lui dis, bah, et toi, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Il m'a dit, parce que j'aime Jésus. Et sa simplicité révélait une vie par la foi, révélait qu'il voulait prendre sa part par amour pour Christ dans le monde. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de recouvrir, de retrouver cette simplicité de l'Évangile et de cette confiance en l'Évangile. Une illustration. Vous me voyez là avec deux Français, Samuel Boukoras, qui est responsable de la jeunesse à ma droite, AJC en France, de notre union d'église, et à ma gauche, Philippe Monnery, qui faisait partie du staff, donc qui était présent. Philippe, beaucoup d'entre nous le connaissent, il est déjà venu, c'est un très bon ami à moi, qui était là-bas avec moi. Au milieu, nous avons Amine. Amine est pakistanais. Alors, je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo. Il m'a dit oui, je m'en fous, moi. Il n'y a pas de problème. Je dis OK. Amine vit au nord du Pakistan. Il habite dans le village voisin de celui où a été retrouvé Ben Laden. Vous voyez un peu l'ambiance qu'il y a autour de chez lui, quoi. Amine a implanté un réseau d'églises locales souterraines, des églises underground, comme ils disent là-bas, des églises souterraines. Et je lui ai demandé un petit peu comment ça s'est passé. Je vous fais la version courte. Amine a fait 4 fois de la prison, a été torturé 2 fois. Il se rend dans des villages, il va dans un café, il discute avec les gens. Et pour son ministère, il a besoin d'une Bible, d'un sac de couchage et d'une moto pour aller d'un village à l'autre. Donc il va dans un village, il rentre dans un café. Et là-bas, il y a des cafés avec des salles immenses, il me racontait, avec des tables de partout. Et les gens se posent là-bas l'après-midi, tout le monde se pose là-bas avec des ventilateurs de partout. Il fait chaud, ils boivent le thé. Et il s'assoit aux tables et il commence à discuter avec les gens. Il se présente, il dit qui il est, d'où il vient et tout ça. Et il commence à leur dire, bah, écoutez, je viens vous voir parce que j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Et il prêche l'évangile. Et les gens, petit à petit, s'agglutinent autour de lui pour écouter ce qu'il a à dire. Puis il y en a parmi eux qui ne sont pas contents, qui appellent les chefs religieux locaux, les chefs religieux viennent, attrapent Amine, l'amènent au poste, et il s'est fait casser tous les doigts, et on lui demandait de renier sa foi. Après, il fait de la prison, et il se fait jeter, et on lui dit, si tu reviens dans ce village, on te tue. Mais ce qui se passe, c'est que lui ne revient pas dans le village, mais parmi ceux qui l'ont écouté, il y en a qui vont le voir, et qui lui disent « Dis-nous en plus sur Jésus ». Et c'est comme ça que l'Évangile s'est implanté, et c'est comme ça qu'il a implanté des églises. Et vous savez comment il suit ces personnes-là, après à distance ? Par WhatsApp, les applications que nous on a pour discuter. Et donc il leur envoie des documents, il prie avec eux, il me dit « On fait des réunions de prière par WhatsApp, on s'enregistre, moi je prie, eux ils prient là-bas ». Voilà, il me racontait l'histoire de la première église, donc un père de famille s'est converti, toute sa famille s'est convertie, la maison d'à côté, celle d'à côté, celle d'à côté. Et donc après, les gens se retrouvent. Et l'une des choses qui faisait le plus bizarre à Amine, c'était que nous, là-bas, on pouvait prier à voix haute. Et que jamais ils ne prient à voix haute. Ils doivent chuchoter au cas où ils soient écoutés. C'est fou, hein ? Ça, c'est un panneau qu'il y avait dans une église là-bas. Une église où il y avait 500 membres. 500 membres d'une église à Jakarta qui a une vision pour 2020 d'implanter 3000 églises. Actuellement, cette église de 500 personnes, donc on va dire 2,5 fois la taille de notre église, peut-être 3 fois à la louche, cette église a implanté sur ce tableau-là, donc c'est des grands tableaux qu'il y a dans le hall, et vous avez ici un chiffre, c'est 883. Cette église a implanté 883 églises. Elle existe depuis les années 70. Et sa vision, c'est de dire, dès qu'on a, ils font des récoltes de fonds, et dès qu'ils ont, ils financent quelqu'un qui est à temps plein et qui va évangéliser dans un village et qui, comme ça, participe à plusieurs à l'évangélisation d'un village. Et quand il y a des chrétiens qui se convertissent, il les invite, il pourvoit leurs besoins, il les forme et il leur permet aussi d'être formés chez eux. Et après, ils repartent dans leur coin pour continuer et eux, ils continuent de soutenir comme ça. Alors, ça m'a impressionné. Je me dis, à 500 membres, arriver à faire ça, c'est extraordinaire. Voici pour la présentation. Je m'excuse, j'ai été plus long que prévu.